Parfait.
C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez Le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle de com B2B et pour m'accompagner, je suis avec Monsieur Camille Poignant. Salut Camille.
Salut Thibaut, salut la France. Bienvenue en 2010, la com B2B façon base de données Excel utilisée pour faire de l'emailing massif se porte très bien. On kiffe acheter ou constituer soi-même son joli tableur à deux entrées et 22 colonnes, puis packager un joli mail dans l'espoir d'aller chercher un joli 4% de taux d'ouverture. On n'y est plus là-dedans. Hein.
On va pas parler de ça. Non, mais non. Est-ce que la com B2B doit être relou pour absolument marcher? Est-ce que c'est le cœur du truc, hein? Parce que c'est vrai que le B2B a toujours eu la triste réputation, on va dire, hein, d'être le côté chiant de la com. Voilà, c'est dit. Une sorte de parent pauvre dans le monde un peu glossy et fun des créatifs. Et pourtant, il y a tellement de choses à faire en termes de communication B2B. Et vous allez voir ce matin qu'on va vous montrer un certain nombre de campagnes canons et puis échanger plus globalement sur ce sujet avec peut-être un point de départ, si tu permets Camille.
Oui.
Le B2B a changé.
Voilà, exactement.
Voilà. C'est plus le B2B d'avant, parce que pendant très longtemps, il y a eu une croyance, hein, une croyance que les acheteurs B2B ne prenaient des décisions que sur la base d'informations rationnelles. En gros, c'était des mecs, hein, l'image qu'on s'en faisait,
c'est
un acheteur, c'est un mec avec un costume cravate qui étudie des offres, qui benchmark sur la base d'informations
très factuelles,
le prix, l'argument, la fonction.
Et on se rend compte que ce mode-là, hein, ben, il rendait difficile le fait de départager des offres B2B concurrentes avec des différences très minces qui finalement on expérimentait plutôt après l'achat. Et puis, ben, il y a ce Covid qui est arrivé, qui est passé par là. Moi, dans tout ce que j'ai lu, là, j'ai trouvé quand même un marqueur Covid. Les gens sont devenus plus à l'aise avec le côté friendly des affaires en raison du mélange qui a été induit par le Covid. Je suis à la maison, mais je travaille B2B, je suis avec ma famille, il y a mes gosses à côté qui regardent la télé. Donc, ça a fait un début de changement, tout ça.
Ouais, bah, t'as raison. Sur un premier point, c'est qu'effectivement, déjà, les offres B2B se sont complexifiées. Et notamment, si on parle de la tech, hein, c'est difficile
carrément
aujourd'hui, quand même, de comparer des offres B2B concurrentes. Et à peu près tout ce qui est une bonne partie aujourd'hui du service B2B s'est transformé en SaaS, hein, donc en logiciel, en tech. Comment tu compares deux offres B2B concurrentes dans la tech? Les différences, tu l'as dit, elles sont souvent très marginales et il n'y a qu'après l'achat que réellement
que tu vois
la différence. Et du coup, l'approche marketing un peu à l'ancienne, basée sur les fonctionnalités, le pricing, le service client, la qualité du service client, etc., c'est un des arguments qui ont moins de poids aujourd'hui. Et on constate qu'il y a une approche marketing effectivement plus humaine qui est en train de se mettre en place, qui laisse plus de place à l'émotion, pardon, et que ça peut être tout ça un bon moyen de sortir du lot. Et on voit effectivement les argumentaires de communication B2B se déplacer de l'offre vers le why des marques.
Ouais.
Vers le why, parce que là, c'est à cet endroit-là que je peux davantage créer d'émotions, de liens et ramener de l'humain. Si tu permets, j'ai un cas qui ressemble beaucoup à ça, c'est la marque Notion. Tu sais, Notion, c'est un soft... Alors nous, on utilise Asana, un outil de gestion de tâches, d'équipe, etc.
Qui t'envoie des notions, des notifications.
Qui t'envoie des notifs, etc. Bref, si t'as une petite équipe, tu peux piloter cette équipe avec Notion. Voilà, est très en vogue en ce moment. Et j'aime beaucoup ce que fait Notion en termes de communication digitale, parce que bien sûr ils auraient pu beaucoup travailler sur les fonctionnalités et ils le font par ailleurs, mais sauf que pareil, comment tu compares ça? Et puis est-ce que vraiment tu accroches encore un acheteur B2B en lui parlant exclusivement de fonctionnalités? Sans doute pas exclusivement, et c'est dans ce cadre là qu'ils travaillent un podcast qui s'appelle Tools and Crafts, que je vous invite à aller découvrir, qui est très intéressant puisque dans ce podcast, eh bien justement, ils parlent pas de fonctionnalité, ils parlent pas du service SaaS que propose Notion. En gros, ils mettent en avant des profils, des parcours d'entrepreneurs. Je trouve ça très intéressant, avec un angle qui est vraiment
l'outil et
le savoir-faire. Donc l'outil, on se doute qu'à un moment donné, Notion en fait partie, hein. Ils sont un outil de la trousse à outils d'un entrepreneur, mais aussi le savoir-faire, vachement intéressant. Voilà, je trouve que c'est très bien fait et ils ont une manière de le communiquer qui est intéressante, c'est que sur leur compte Instagram, notamment, ils vont utiliser des micro-vidéos teasing où on voit l'host du podcast et l'invité papoter, discuter dans la rue ou discuter dans l'atelier. Puis après, c'est une version audio. Voilà, c'est bien fait. Je vous mets le lien en note de cet épisode si vous voulez aller écouter ça. Comme quoi, on peut faire du pur B2B et pas forcément être toujours dans la fonctionnalité, dans le produit, dans l'offre, mais aussi dans l'inspirationnel, en tout cas dans le lien, dans le why de la boîte.
Thibaut, je suis tombé sur une étude qui, je trouve, répondait assez bien à notre question du jour. Est-ce que la communication B2B doit forcément être relou, chiante, boring? D'ailleurs, B2B ne veut pas dire boring to boring. J'ai trouvé ça.
Pas mal, bien trouvé.
C'est une étude réalisée l'année dernière par LinkedIn et l'agence Edelman. C'est donc l'étude Talk Leadership Impact Study qui a été menée auprès de 3600 utilisateurs. Il y a des chiffres qui sont très intéressants, qui collent vraiment avec ce qu'on s'est dit. 71% des professionnels sondés affirment que plus de la moitié des contenus qu'ils consomment sur LinkedIn ne leur apportent aucun insight intéressant. Bon, déjà, point de départ.
C'est sévère.
Voilà, ce chiffre, il pointe du droit de doigt trois besoins évidents du côté des marques qui communiquent en B2B. Il est évident que communiquer sur LinkedIn ou communiquer même en B2B largement nécessite de connaître ses audiences. Basique. Ce qu'on fait nous très bien en B2C. Sur LinkedIn, faut savoir aussi faire preuve d'audace, de créativité, et ça veut pas dire que ça doit être boring. Basique aussi. Et troisième besoin que je trouve très révélateur de notre évolution, c'est savoir prendre conscience que la mutation des parcours d'achat a bel et bien eu lieu et qu'aujourd'hui un consommateur B2B, eh ben, il effectue seul 57% du parcours d'achat avant même de solliciter un représentant. Fini le forcing, les relances, les appels. Il y a les trois quarts du taf qui se font sans toi, en fait. Ouais. Donc, ton énergie, tu dois la placer ailleurs.
Ouais, et ça, c'est notamment vrai, comme tu l'as dit, il y a sans doute un marqueur Covid, et c'est notamment vrai aussi avec l'évolution de l'entrepreneuriat. Hein. Aujourd'hui, il y a quand même une explosion de solopreneurs, de start-up, et du coup, l'acheteur B2B en lui-même, effectivement, il a changé. C'est plus, il attend un catalogue, ou il attend un call d'un commercial pour prendre une décision, ou benchmarker.
Il s'informe, il kiffe.
Et puis, il est très loin, le temps aussi, du professionnel en costume. Hein. C'est plus ça, aujourd'hui. Et du coup, il y a un paquet d'entreprises aujourd'hui qui sont des petites entreprises, qui ont minimum 10 personnes et sont parfois en 100% remote hein, aussi, comme tu le disais. Et du coup, effectivement, la ligne entre perso et pro, elle commence à se rompre. Ça fait déjà quelques années maintenant. Hein, et on entre dans une sorte de monde B2B beaucoup plus inclusif, qui laisse plus de place à tout le monde. Et à ce titre, eh bien, la communication B2B, elle souhaite apporter davantage d'humains aujourd'hui. Peut-être jouer aussi la carte de l'UGC. Je suis tombé sur un exemple très intéressant chez Monday.com. Pareil, on est sur une boîte, c'est de la tech, ils font du software as a service. Tu l'as déjà vu cette pub YouTube, parce qu'à un moment donné, ils ont tabassé avec leur pub YouTube Monday.com. Et je trouve que Monday.com, ils ont une stratégie TikTok très intéressante qui est basée massivement sur de l'UGC. Aujourd'hui, ça déjà rien que ça, c'est une boîte B2B qui est présente sur TikTok, qui a 16 500 abonnés. Et qu'est-ce qu'on y voit? Eh ben, on y voit beaucoup de petits entrepreneurs ou de solopreneurs, hein, d'auto-entrepreneurs, qui partagent leurs tips, leurs astuces d'organisation. Je trouve que c'est malin. La marque, elle joue aussi vachement la carte du backstage dans les bureaux de la société, ce qui permet de renforcer aussi la perception d'une entreprise proche de ses clients. Mmh. C'est de dire, bah, Monday.com, c'est pas une multinationale, on n'est pas Salesforce, on est une petite boîte comme vous. Voilà, et je trouve que c'est très bien fait. On voit là aussi que la com B2B, elle n'est pas forcément chiante, mais elle peut être davantage tournée vers les autres.
L'opportunité qu'ils ont eue aussi, eux, avec en utilisant TikTok notamment, c'est qu'il y a une partie de leurs clients qui font du B2B tout si, et du coup, tu peux avoir une approche qui correspond plus à ce qu'ils sont habitués à vendre à leurs propres clients, les clients de leurs clients. Et ben moi, j'ai un exemple. Alors, j'ai un exemple aussi où on parle d'UGC, donc je peux en profiter.
Vas-y, je t'en
prie. J'ai quasiment parlé que de LinkedIn aujourd'hui. Je savais que t'allais explorer d'autres territoires. Je vais te parler de quelque chose qui est chiant de base. La CNCC, est-ce que tu connais? C'est la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes.
Ouais, voilà, dit comme ça.
Ça fait froid dans le dos. Ils ont fait une communication ambitieuse et décalée avec des visuels, autant déclinés en social media que dans la rue, dans les affiches de métro. Sur les visuels, t'as une personne, il y a écrit en gros « Ils ne servent à rien ».
Ah, mais je l'ai vu, cette campagne.
Voilà, « Ils ne servent à rien d'autre qu'à veiller à la sécurité de l'économie ». Donc, t'as une catchphrase, une lumière, une couleur très pulpy qui vient t'attirer l'œil. Donc, la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, c'est un organisme public qui régule la profession de commissaire aux comptes. C'est pas le plus sexy du B2B, et donc ils ont lancé cette campagne en septembre. La campagne, elle se veut audacieuse, elle assume ce ton décalé pour essayer d'aller chercher casser des préjugés qui collent à la peau hein, de ce métier. Elle a été pensée pour une cible de dirigeants, qu'ils aient ou pas un commissaire aux comptes déjà, pour montrer la vraie perception de ce métier, essayer de porter un autre message. Et c'est très osé de leur part de sortir complètement de leur carcan, mais ils ont fait du B2B à fond sur LinkedIn. Ils en ont fait beaucoup par mail aussi, et bien sûr sur leur site. Voilà.
Ouais, mais je trouve ça très intéressant parce que c'est.
Ah, excuse-moi, j'ai oublié un truc. Oui. Je te parlais du GC. En fait, ce qu'ils font, c'est que forcément, ça attire l'œil. Beaucoup de gens le prennent en photo, le publient sur leur LinkedIn, sur leur Twitter, etc. Et eux le repartagent massivement sur le compte de la CNCC sur LinkedIn. Pardon.
on le disait, les offres B2B, elles sont parfois complexes. En fait, tu vois, la CNCC, c'est pas très simple de comprendre ce qu'ils font exactement,
tu sais
c'est quoi
ce
le métier.
Et
du coup, c'est là-dessus qu'ils jouent dans l'accroche de leur pub. Ce mec ne sert à rien, c'est exactement ça. Donc les offres B2B, elles sont parfois complexes et les raconter avec un twist marquant et créatif, c'est aussi un bon moyen d'attirer l'attention. Et là, j'ai une campagne que je trouve géniale qui a été montée par Spotify. Mmh. Vous êtes peut-être tombé sur cette campagne A Song for Every CMO, une chanson pour chaque directeur marketing. Hein. En gros, c'est une activation social media 100% B2B à l'attention des directeurs marketing. Je vais essayer de vous l'expliquer, mais je vous mets surtout un lien vers cette campagne pour que vous puissiez la voir en détail. Concrètement, chez Spotify, ils vendent de la pub. C'est même une partie importante.
Gros annonceur.
Voilà, c'est une partie importante de leur business model. Le problème, c'est que la plateforme, elle n'est pas du tout identifiée par les directeurs marketing pour ses capacités de ciblage. Alors que c'est une des grosses promesses qu'ils font. Et ça, tout ça, c'est quand même difficile à raconter. Ah oui, on s'est ciblé, on s'est... Voilà, comment tu racontes ça ? Eh bien, ils ont eu l'idée folle de mettre en place une activation micro-ciblée complètement hors du commun. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ciblé 12 marketeurs, seulement 12. 12 directeurs marketing très puissants et très influents. Qui est-ce qu'il y a ? Il y a la directrice marketing d'Intuit. Il y a la dire marketing de Frito-Lay, Pepsi-Cola, etc., etc. Donc vraiment, ils sont allés chercher comme ça des leads très précis, mais c'était des leads complètement froids. Les mecs n'avaient aucun contact avec Spotify, sauf le fait qu'ils étaient utilisateurs eux-mêmes à titre personnel de Spotify.
Il y a la meuf de Doritos aussi, la marque de chips.
Et voilà, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont produit 12 chansons exclusives avec des artistes. Ils ont utilisé pour ça toutes les datas perso qu'ils pouvaient glaner sur ces 12 profils. Par exemple, le type de musique qu'ils écoutent sur Spotify, leur titre préféré.
Où est-ce qu'ils ont commencé à bosser
Où est-ce qu'ils ont commencé à bosser. Toutes les infos qu'ils peuvent glaner sur la toile, sans aller prendre un inspecteur, tu vois, un détective privé, juste des infos qu'ils ont glanées. Et ça, ils l'ont confié, ils l'ont mis entre les mains d'artistes qui ont produit des titres dans le style préféré de chacun des directeurs marketing en fonction de ce qu'ils avaient compris de leur consommation sur Spotify. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont édité un visuel façon disque d'or avec la pochette de l'album fictif.
Ils ont créé une pochette aussi en fonction de ses centres d'intérêt, donc c'est assez ouf.
Exactement, et ils ont envoyé ça directement, en envoi à l'ancienne par livreur, directement aux 12 directeurs marketing. Et résultat des courses, énorme strike évidemment, parce que ce qu'ils ont pu faire, c'est attirer l'attention et d'une certaine manière assez subtilement montrer les capacités de targetage, de ciblage d'une plateforme publicitaire comme Spotify. Grosse réussite pour cette campagne.
Et ce qu'on voit aussi super important pour les marketeurs en global et en social media, c'est qu'ils n'ont pas juste fait cette activation, ils ont fait aussi une vidéo récap qui est ultra bien faite,
bien sûr,
qui donne grave envie de regarder, de comprendre le truc. Donc c'est toujours important aussi de relater ce que tu as fait quand tu crées une campagne de ce type là. J'avais aussi deux autres chiffres moi qui étaient intéressants, qui rejoignent ce que tu disais. 65% des décideurs B2B ont développé une image plus positive d'une marque grâce au post LinkedIn de ses dirigeants. Tu parlais d'humain. Voilà, 65% d'entre nous se dit que cette marque, elle est humaine, elle est cool parce qu'on l'a vu. Pour 64% d'entre eux, le contenu publié sur LinkedIn en B2B est un critère plus fiable pour évaluer les capacités, les compétences d'un prestataire. Tu sais, on parlait de cette couche très fine de différence entre deux offres.
Ouais.
Le post LinkedIn ou l'évaluation qu'on a vue d'une personne nous donne un avis positif tout de suite sur sur le produit.
Ce qu'il faut aussi se souvenir, et ça tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est que nombre de marques B2B sont aussi des marques B2B2C. In fine, il y a quand même un client final et qui n'est pas forcément un professionnel. Et forcément, pour les marques B2B, celles l'ont bien compris, elles commencent à s'adresser au client final en se disant qu'il va être prescripteur de l'acte d'achat B2B. Je vais te donner un exemple très précis avec Alan. Tu sais, Alan, ouais, je trouve que nous, on est fait Alan, la mutuelle de notre entreprise. Eh bien, Alan, c'est très intéressant parce qu'eux aussi ont une présence sur TikTok, voilà. Ouais. Et la base de cette stratégie de contenu, elle est autour de la santé. Ils parlent d'amour, d'hypnose, de burn-out, de santé au travail, etc., etc. Et on voit bien que là, la cible que vise Alan sur TikTok, c'est en fait les salariés des entreprises. C'est pas le dirigeant.
Il vise l'humain qui est à l'intérieur du dirigeant, qui va s'adresser à ses employés.
Non, et puis je pense surtout qu'ils visent le prescripteur, c'est-à-dire les salariés. Donc c'est du B2B aussi, c'est-à-dire que si j'ai plusieurs salariés qui détectent que Alan est une opportunité, peut-être qu'ils vont le faire remonter au RH de l'entreprise qui va changer de mutuelle. C'est ça l'angle qui est intéressant. Et là, il faut quand même rappeler ce que c'est Alan. Alan, c'est une mutuelle. C'est une mutuelle professionnelle. Tu peux pas faire plus B2B que ça. Et plus chiant, hein, initialement.
De base, oui.
C'est vraiment ultra chiant. Et là, on est clairement dans le contenu qu'ils proposent sur TikTok, dans le registre de la brand utility. C'est vachement bien fait. La marque, elle propose des vidéos qui viennent vraiment répondre à son why. Et là, on y revient à nouveau. Le why d'Alan, c'est quoi? C'est rendre la santé plus simple et plus ouverte. Bah ouais, qu'est-ce qu'on fait? Bah du coup, on produit des vidéos simples au cœur de la plateforme où là, les gens sont, TikTok, dans lequel on va leur apprendre des trucs sur le handicap, sur le burn-out, sur la dépendance aux médicaments, etc. Aujourd'hui, Alan, c'est 14 700 abonnés sur TikTok, donc ils sont pas là, ils sont pas venus pour rigoler, et ça vaut le coup, je vous mets les liens là, en note de cet épisode.
Il y a eu des grosses campagnes de pub hein, pour Alan, et ce qu'on voit aussi, bah du coup, pour l'utiliser, c'est que la com, elle est en direction du prescripteur final, mais les outils aussi qu'ils mettent en place sont quand même super adaptés à l'employé à la fin. Petite pub pour vous. Il y a un truc qui est marrant, on parlait aussi d'humain, justement avec le cas Alan aussi. Il y a un des articles qu'on avait là dans notre petite base de recherche avec des avis de dirigeants sur le B2B en général. Il y en a un, c'est Tristan Maurice, directeur chez Trunk BBI, qui nous dit « Plutôt nous accepterons que nous sommes tous des humains, que ce soit au travail ou à la maison, plus vite le B2B rattrapera son retard. » Et on voit qu'il y a un gros taf là-dessus quand même qui est en train d'être fait, qui est en train de s'activer, mais qui met quand même du
ouais,
temps.
Ça devient assez excitant aujourd'hui, ouais. Alors qu'initialement, bon, le B2B, c'était plutôt un truc que les créatifs, en tout cas, fuyaient. Ouais. Et ils étaient là, non, mais mettez-moi plutôt, ça démarre grand public. Ultime exemple, et un exemple qu'on connaît très bien, c'est Valrhona, voilà, la marque Valrhona, la mythique marque de chocolat Valrhona, qu'on a le plaisir d'accompagner ici à l'agence Supernative, bah, c'est du B2B. Leurs clients, à 95-98%, sont des professionnels, sont des chefs, des cuisiniers, etc. Ça n'empêche pas la marque d'avoir une stratégie de prise de parole en ligne qui n'oublie pas le B2B, B2C. Et du coup, ça fait un très très beau contenu. Hein. Sur Instagram, c'est 284 000 abonnés. Hein. Valrhona, pour une marque B2B, c'est monstrueux. Et c'est une marque qui est suffisamment culte aujourd'hui pour que le client final soit prescripteur auprès de l'acheteur. Ça, c'est quand même très fort. Et c'est quelque chose qui s'entretient durablement sur les réseaux sociaux. À ce titre, si vous allez jeter un coup d'œil sur le compte Instagram, ben, le contenu fait la part belle au chef, évidemment, au client final, au B2B, à leur création, à leur parcours de vie, etc., etc. Mais ça produit un contenu qui est méga inspirationnel et ça parle autant au B2B qu'au B2C et ça, c'est quand même l'équation parfaite.
Ouais, c'est l'habileté. Et puis ce qu'on peut voir aussi avec Valrhona, c'est que c'est une marque donc B2C qui est présente sur à peu près toutes les plateformes.
B2B, tu veux dire
B2B, ouais, c'est dur. B2B, B2C, qui est présente sur toutes les plateformes. Et c'est là qu'on voit que le B2B, il a vraiment sa place partout. Il suffit juste de savoir le travailler, quoi.
Maintenant, on veut les amener sur TikTok. Ils nous attendent dans la pièce d'à côté. Je spoil, on va faire en sorte. Voilà, on a fait à peu près le tour.
Est-ce que je fais un récap de 5 points en une minute?
Très brièvement.
Ok. 5 règles d'or pour faire partie des contenus de qualité en B2B. Il y a 15% de contenus qui sont jugés excellents ou très bons. Voilà, point. Se focus sur le présent. On n'a pas envie de parler de l'ancien temps, des choses comme ça. Chercher un sujet que personne n'a abordé. Bah, essayez, oui, d'être sur un truc un peu plus original. L'humain plutôt que la marque. L'audace, voire la provocation si on se sent. Mais en tout cas, il faut y aller. Il faut sortir des vieux carcans. Et puis, arrêter les pitchs commerciaux qui suscitent immédiatement des leviers de bouclier et du dégoût même quasiment. Donc allez-y, faites-vous plaisir.
Ouais, bien
c'est
dit.
Assez rapide.
Bien. Très bien dit, très bien dit. Bah oui, c'est pas obligé d'être chiant là comme B2B. Ça tient à nous, créateurs de contenu, agences, et puis ça tient aussi aux annonceurs. Hein. Là, il y a un moment maintenant où on peut tout faire basculer et rendre ça beaucoup plus cool, fun et impactant.
Il faudra qu'on fasse un épisode sur les influenceurs B2B. J'ai vu pas mal de pistes là-dessus et je me suis dit, il faut creuser ça un jour.
Merci à vous tous, les les amis, vous écoutez cet épisode de podcast sur une appli de podcast. Allez, on vous demande un petit service. Comme ça, vraiment une broutille. Partagez cet épisode à un pote. Envoyez ça à quelqu'un, à un copain, en lui disant, faut que tu écoutes cet épisode. Je pense que y a des trucs à apprendre dedans. Mmh. Vous lui ferez plaisir. Et puis nous, ça nous permet quoi? Ça va nous permettre de faire du bouche à oreille. C'est comme ça que ce podcast, il marche.
C'est comme ça que le B2B marche aussi,
et puis,
d'ailleurs.
Et puis, on se retrouve sur @supernatif. Voilà, n'hésitez pas.
Sur tous les réseaux. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest.
Merci TikTok. À vous tous. On vous embrasse. On vous souhaite une très belle journée. C'est
tout
le monde.
Salut,
ciao, bye bye.